Si on peut faire la prière pour l'État d'Israël, alors pour la France, il faut la faire. Alors, dans quel monde de fous, hein, je ne sais pas si vous réalisez. Est-ce que c'est clair ou pas? Vous voyez, quand il y a une passion, c'est il y a Sion ou la passion. Bon. Non, ils n'ont rien du tout. Et vous verrez, on vous donnera les sidourim de Yom HaAtzmaout, vous verrez que la Rabbanout HaRashit a institué enfin une fête religieuse pour elle-même avec un sidour spécial. On a une prière particulière pour Yom HaAtzmaout. Eh bien, ce jour-là, eux, ils font rien du tout. Et à pire, à Mehacharim, ils prennent le deuil. Je ne sais pas si vous savez. Ils se mettent un silice, ils disent un tilim, ils jeûnent. Oui. Bon, ça, c'est encore autre chose, Mehacharim. Mais pour eux, c'est un jour de deuil, quoi. Mais cette position, c'était pour répondre à ta question. Vous voyez bien qu'il y a des gens qui ont des yeux et qui ne voient pas. Alors, on n'y peut rien, c'est comme ça. Et c'est clair. Bon. Alors, ceci dit, quelle heure il est? Oui. Votre prochain cours, c'est quand? 5h30. Alors, si vous voulez, on va prendre 10 minutes de repos et on étudie encore une demi-heure. Mais 10 minutes, pas plus. À moins 5, vous serez. Au moins, pour que vous puissiez noter l'idée essentielle de ne pas vous tromper. Dans cette Gemara, on se réfère d'abord à un verset du chapitre 19 de Shemot, qui est que le peuple s'est rassemblé au pied de la montagne. Vaïtiatzevou, betartit har. Vous voulez ouvrir la porte si ça ne dérange pas? Vaïtiatzevou, betartit har. Vous vous rappelez de cela? Bon. Et le Midrash, donc, dans cette Gemara, nous fait tout un raisonnement. C'est-à-dire, ils se sont rassemblés au pied de la montagne. Pourquoi ce détail? Bien sûr que s'ils se sont rassemblés, c'est au pied de la montagne. Donc, on va raisonner de la manière suivante. Et cela nous apprend, dit le texte, que Dieu a soulevé la montagne au-dessus d'eux et leur a dit « Imate mekabli metatora muta veimla ani » Hein? Comment c'est marqué? Ah non, mais la mère, c'est Kafa, allez, Harkigigit. Cela nous apprend que Dieu a retourné la montagne sur eux comme un gigit, c'est un couvercle de baquet, ou un grand couvercle, hein, ça s'appelle gigit. Vous voyez un peu le sens de gag, le toit, hein. Alors gigit, c'est comme un toit. Et là, dit, Imatem Kabli Metatora Muta, Veimlav, Sham Tehe Kouratre. Si vous acceptez la Torah, c'est bien, sinon, là sera votre tombe. Je vais citer essentiellement deux principes d'explication, en m'appuyant d'ailleurs sur le Maharal. Le premier principe, c'est que les termes que je vais vous employer ne sont pas du Maharal dans la première explication. Okay? Ne vous trompez pas. C'est que se passe-t-il dans cet événement de révélation? Eh bien, il se passe une mise entre parenthèses de la liberté de l'homme. Pas mise en parenthèse, de trouver un autre mot si vous voulez, une éclipse de la liberté. C'est-à-dire, l'événement de révélation est en lui-même une contrainte qui supprime la liberté. Vous comprenez bien cela, Ken? Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a dévoilement de l'évidence, nous pouvons prendre, si vous voulez, l'analyse de l'évidence comme comparaison. Toute évidence, de quelque ordre que ce soit. Prenons, si vous voulez, bon, le type de l'évidence, c'est l'évidence mathématique. Okay? À partir du moment où vous percevez l'évidence d'un théorème de mathématiques, vous ne pouvez plus faire qu'il ne soit pas vrai. L'évidence porte en elle-même une contrainte absolue. Okay? Lorsque la vérité se dévoile, elle porte avec elle une évidence qui me contraint. En fait, je pourrais être libre de m'opposer à la vérité, de l'évidence. Okay? Mais je ne peux pas faire, je ne suis pas libre de faire que l'évidence ne soit pas ce qu'elle est. Ça y est, c'est clair. Bon. Ça veut dire, prenez cet exemple-là, je ne sais pas si vous l'avez cité déjà cette année, le concept de vérité a deux contraires. C'est quoi? Le contraire de la vérité, c'est quoi? Hein? Ah, j'entends pas. Mais ayez le courage de dire l'erreur et ou bien le mensonge. Ce sont deux opposés radicalement différents. Okay? L'erreur, c'est quand je me trompe sur la vérité. Okay? Quand je ne vois pas la vérité. Mais le mensonge, je sais que la vérité, c'est la vérité, mais je m'y oppose. Oui, c'est clair. Bon. Alors, même devant l'évidence, je peux me conduire autrement que selon l'évidence. Bien que l'évidence me contraint, je peux rester libre de me conduire comme dans l'ordre du mensonge, okay, par exemple. Et, si vous voulez, c'est le problème de la bonne foi. La bonne foi, ça veut dire tenir compte de l'évidence qui s'est imposée à moi. Et vous voyez, où est la liberté là ? Ici, la liberté prend un visage très négatif. Au fond, la liberté, ça ne peut être que la liberté de se tromper. Est-ce que c'est clair ce que je dis là ? Réfléchissez bien à cela. Parce qu'il y a un niveau inférieur de la liberté que l'on réclame comme une valeur, alors que, dans son contenu, on voit très bien qu'il y a une dimension très négative. Qu'est-ce que ça veut dire rester libre devant la vérité ? Ça veut dire pouvoir mentir. Oui, est-ce qu'il n'y a pas, réfléchissez à ça pour vous-même, est-ce qu'il n'y a pas dans cette réclamation de la liberté, souvent, trop souvent, le fait de réclamer d'être libre de se tromper ? Mais où est cette valeur d'être libre de se tromper ? Hein ? Alors, ce premier niveau de la liberté, le tzaddik, l'homme qui veut être tzaddik, la refuse, demande qu'elle lui soit enlevée. Parce qu'être libre, ça veut dire être libre de se tromper. Un tzaddik ne veut pas se tromper. Alors, si c'est parce que je suis libre que je peux me tromper, il vaut mieux que je ne sois pas libre. Vous suivez ? Ça y est, c'est clair. Bon. Il y a un deuxième niveau de liberté qui est tout à fait autre, qui est la liberté du créateur. La liberté d'être créateur. Mais cette liberté du libre arbitre, être capable de choisir entre le bien et le mal, c'est une dimension provisoire de notre existence. Elle s'attache à tout le temps où nous sommes en épreuve. Pour que nous puissions être éprouvés, il faut que nous soyons libres, c'est-à-dire capables de se tromper. Vous voyez ? Mais à partir du moment où un tzaddik a choisi l'option de la vérité, son choix d'option de la vérité implique le désir de ne plus être libre, de pouvoir se conduire autrement. Comprenez bien cela, même si vous n'arrivez pas encore à l'expérimenter, il faut un âge, c'est que le désir, le souhait du tzaddik, c'est de ne pas être libre. Parce qu'être libre, ça veut dire pouvoir se tromper. Et alors, la récompense du tzaddik, c'est qu'il n'est plus libre de se tromper. C'est sa récompense. Et nous savons très bien que c'est le statut du Baal Tshuva. Bien ? La définition de Baal Tshuva, c'est qu'il ne peut plus refaire la même erreur. Vous vous rappelez de cela ? Il est Omed. Vous vous rappelez ? On a étudié ce texte. Bien ? Il est immunisé. Et ça vous donne un critère. Si vous réfléchissez à ce problème de la Tshuva, voilà telle éventualité de la faute. Tant que je suis encore capable de la faire, c'est que ma tshuva n'est pas authentique. Le signe que la tshuva est authentique, c'est quand je suis plus capable de le faire. Ça veut dire privé de la liberté à ce niveau-là. Ça y est, c'est clair ? Et vous verrez, quand on apprendra cela, c'est la différence entre le statut de l'ange et le statut de l'homme. L'homme peut se tromper, c'est sa grandeur. L'ange ne peut pas se tromper. Bon, il y a tout le cas particulier des anges de la chute, mais enfin, c'est un autre problème, on ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Et alors, au fond, le souhait d'un tzaddik, c'est de devenir un ange, si j'ose dire. C'est étrange, être ange. Mais je sais très bien qu'on n'est pas habitué à cela. Okay? Parce qu'on est encore à ce niveau du libre-arbitre, et c'est très, très corollaire de l'atmosphère de la culture humaniste occidentale, que le titre de gloire de l'homme, c'est d'être faillible, la liberté de choix. Mais tant que j'ai la liberté de choix, eh bien, il n'y a que deux éventualités. Ou bien je choisis le bien, ou bien je choisis le mal. Le tzaddik souhaite ne choisir que le bien, c'est-à-dire ne plus être libre de choisir le mal. C'est ça que je voulais essayer de vous dire. Bon, mais revenons un peu en arrière, il n'y a pas de doute que ce n'est pas par hasard que Dieu nous a créés comme cela. Parce qu'il s'agit du temps de la mise à l'épreuve. Et pour que la mise à l'épreuve soit authentique, il faut que la liberté soit possible. Est-ce que c'est clair ? Vous voyez que d'une certaine manière, à la limite, il n'y a de faute vraiment que la faute d'un tzaddik. Parce que la faute d'un rachard, c'est déjà autre chose. C'est pas qu'il a fait une faute, c'est qu'il est rachard. Est-ce que vous voyez le problème ? Tandis que seul le tzadik, on pourra dire qu'il a des fautes. Oui, de nouveau, nous trouvons le même principe, la différence du jugement d'être et du jugement d'acte. Le tzadik est tzadik au niveau de son être, et il peut avoir des fautes. Alors, ce qu'il souhaite, c'est de ne pas en avoir, mais la seule manière de ne pas en avoir, c'est de ne plus être libre. C'est au niveau de la liberté, libre arbitre. Bon, c'est différent, si vous voulez, entre Bechira et Deror. Deror, c'est la liberté totale. On est au niveau d'un être qui ne peut faire que le bien et qui est libre de faire le bien. Tandis que la Bechira, c'est libre arbitre, c'est pouvoir choisir entre le bien et le mal. Et ce niveau de la liberté, pour la tradition juive, est très inférieur. Il est nécessaire, mais très inférieur. Bon, réfléchissez à ce thème-là, qui est un thème important pour lui-même, et on va voir la suite. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ça vient au même. Ça vient au même. Et je ne sais pas, c'est pas toi, dans ta promotion, qui me posait cette question, il me semble, oui. Mais c'est le même problème, Ken, de considérer que la capacité de douter, c'est une grandeur, ou une vertu.
Non, mais c'est
Ma?
Sans dire c'est une grandeur, c'est... C'est tellement évident que c'était ça la vérité, c'est pas toujours tellement évident.
Non mais, si nous parlons de l'évidence, quand une évidence porte en elle-même son éclairage d'évidence, Ken, il n'y a pas de place pour le doute. Par conséquent...
Non,
ça veut dire que le doute n'est pas une dimension intellectuelle, c'est une dimension psychique. C'est-à-dire que ça vient des passions, ça vient pas de la connaissance. C'est pas au niveau du sérel, ça vient des passions. Ken. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Non, j'entends souvent cette question que... Ah oui, non, je me souviens, j'ai entendu ça la dernière fois, c'était pas ici. Que la vertu, ça va encore... Si vous voulez, c'est une espèce de raté de la conscience humaniste, n'est-ce pas ? Étant donné que la liberté, c'est la liberté de se tromper, le doute devient une vertu. Okay ? Que l'homme de culture, c'est un homme capable de douter. C'est tout le contraire, c'est évident. Okay. Une conscience droite, une conscience de bonne foi, n'a qu'un seul souci, c'est de sortir du doute. Je vais vous faire une analyse très rapide de la philosophie de Descartes à ce sujet, pour que vous compreniez à quel point, effectivement, et c'est Descartes, je crois, qui a eu le mérite dans l'histoire de la philosophie, en tout cas, tous les philosophes le savent, mais de mettre en évidence cela, c'est que le doute vient de l'imagination et non pas de la pensée. Et parce que cela procède, l'imagination, c'est la frontière entre la vie affective et la vie intellectuelle. Okay. Et attention aux mots qu'on emploie, si vous voulez. La vigilance, la lucidité, c'est une vertu. Ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Okay. Mais le doute, c'est autre chose. Okay. Est-ce que derrière le doute, il n'y a pas plus un processus psychique qu'un processus intellectuel. Vous comprenez ma question ? Okay. Oui.
Quoi qu'il en soit, quelle que soit son origine, comment faire taire, soit l'imagination, les procédés psychiques, comment les faire taire ?
Par l'évidence, par la connaissance, c'est évident. Mais il y a une vertu à dépasser le doute. C'est un comportement de l'ordre de la vertu qui seul peut s'opposer au doute. Et c'est ce qu'on appelle la capacité de foi. La capacité de Emouna fait taire le doute. C'est-à-dire, devant la même évidence intellectuelle, vous aurez un homme qui adhère, un homme qui n'adhère pas, qui doute. Okay. Ce que j'essaie d'expliquer, bien sûr, il y a un premier niveau où les arguments intellectuels sont très importants dans ce problème. Mais finalement, il y a un deuxième niveau, quelles que soient les connaissances, les arguments intellectuels, c'est, si j'ose dire, c'est quand je dis psychique, affectif, de l'ordre des passions. C'est-à-dire que finalement, c'est un tempérament. Ça va chercher au niveau des hormones. Okay. Est-ce que c'est clair ce que je dis là ?
Les hormones, c'est l'identité d'être ou alors c'est ce qui est
acquis au final ? Non, ça veut dire que ça vient des niveaux inférieurs de notre identité. Okay. Vous savez très bien que l'état de l'équilibre du tonus affectif vient de l'état de l'équilibre chimique des hormones. Okay. Ne vous affolez pas. Non, je veux dire, ne croyez pas que c'est du matérialisme. C'est beaucoup plus profond que ça. Nous sommes une entité psychosomatique. Vous connaissez ce mot-là ? Je l'ai employé, je crois. Soma, ça veut dire le corps en grec. Okay, le lien entre le psychisme et le corps. et que finalement le tonus affectif dépend de l'état chimique de nos hormones. Ça, c'est absolument évident. Okay. Et alors, à chaque fois que vous avez des comportements psychiques qui se mêlent aux comportements intellectuels, il faut savoir que derrière, il y a un défaut corporel. Bon, ce terme de défaut corporel n'est pas scientifique. Enfin, je récapitule ici énormément de choses que des savants vous diront de façon plus précise. Okay. Et c'est pourquoi, faites bien attention à cela. Si vous avez à vous occuper dans l'éducation de gosses ou d'adolescents qui ont des désordres psychiques, okay, eh bien, sachez que quelle que soit l'aide qu'on peut leur donner par, au niveau affectif, par la psychothérapie verbale, par, il faut beaucoup d'amour pour s'occuper d'un handicapé psychique, c'est pas facile. Mais premièrement, il faut mettre en ordre l'équilibre chimique corporel. Premièrement, les pilules, les cadourimes que donne le médecin, ça passe d'abord. Non, je vous dis ça parce que l'expérience nous montre que beaucoup d'éducateurs, par coquetterie, négligent cet aspect du problème. Okay. Mais ça, c'est une des choses où j'ai appris du professeur Baruch, et j'en ai appris beaucoup d'ailleurs, qu'il y a d'abord une régularisation physico-chimique à faire. Après, le travail de l'éducateur est important, qui parle de l'âme à l'âme. Okay. Mais si vous avez quelqu'un qui est handicapé psychiquement, sachez qu'il y a une base corporelle. Même si la base corporelle, le dérèglement corporel est la conséquence du dérèglement psychique et pas la cause, ça ne fait rien. Il en résulte qu'il y a un cercle vicieux, et à partir du moment où il y a un déséquilibre hormonal, eh bien, le psychisme est très handicapé parce qu'il a à sa disposition un corps détraqué. Est-ce que c'est clair ce que je dis là ? C'est-à-dire, si vous avez à vous occuper de ces problèmes-là, bon, c'est une spécialité d'ailleurs, n'oubliez pas cela, et je ne serai pas le seul rabbin à vous le dire, et ça peut paraître paradoxal. C'est d'abord le médecin du corps qui doit intervenir. Bon, qu'est-ce que vous dites ?
Le corps humain ?
Oui, mais il faut qu'on l'aide. Il faut l'aider.
Mais il peut faire un malade, donc
Nahon, mais il faut l'aider. C'est ça la différence entre les soins. Le médecin ne guérit pas, il soigne. Okay. C'est le corps qui se guérit, tu as raison. Okay. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est Dieu qui nous guérit chaque fois. Mais il faut soigner. Il faut l'aider. Je sais pas, je sais très bien qu'il y a eu exagération. Vous savez, la médecine de ces choses-là est encore dans l'enfance. C'est une science qui s'est perdue, un art qui s'est perdu de l'humanité. La psychiatrie. Okay. C'est vraiment dans l'enfance. J'ai beaucoup d'amis psychiatres et ils ont des cas de conscience énormes parce qu'ils savent pas comment ça marche, comment ça fonctionne. Empiriquement, ils ont des recettes, mais ils savent pas pourquoi telle substance chimique c'est mieux que telle autre. C'est vraiment l'obscurité. Enfin, si certains d'entre vous se destinent à la psychologie, eh bien, sachez que c'est de l'héroïsme. Parce que c'est une psychologie qui est une science infra-infantile, dans le stade infra-infantile. Tout ce que vous apprendrez en psychologie, enfin, les trois quarts des choses qu'on vous apprendra, c'est les différentes hypothèses d'explication du fait psychique. Est-ce qu'elles sont vraies, est-ce qu'elles sont fausses? On fera de l'histoire des idées. Okay, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un don empirique, profond, du psychologue qui réussit. Mais c'est... Au niveau des concepts scientifiques, c'est très mystérieux. On ne sait pas comment ça marche. Bon, ça ne veut pas dire que dans d'autres traditions, il n'y a pas cette science-là. Mais l'humanité occidentale, elle s'est perdue. Et elle existait jusqu'au Moyen-Âge. Mais elle s'est perdue. Et alors, il y a des réussites absolument admirables de psychologues qui arrivent à sortir des gens des problèmes les plus compliqués, okay, mais parce qu'ils ont un don empirique qui leur permet de comprendre en lisant sur le visage. Bon, c'est un autre problème. Seulement, dans tous les cas, il faut bien savoir une chose, c'est que il ne faut pas négliger cet aspect, il ne faut pas le mépriser. C'est que il faut une régularisation corporelle d'abord. Pourquoi j'insiste? C'est parce que ça peut vous paraître paradoxal qu'au nom de la Torah, je puisse vous dire des choses pareilles. C'est pas du matérialisme, c'est le fait que si le corps n'est pas sain, l'esprit fonctionne mal. Et vous avez des défauts psychiques, hein, c'est clair. Vous avez des défauts psychiques qui viennent de défauts corporels. Alors il faut d'abord régulariser cela. Il y a eu de l'exagération, la chimiothérapie, comment vous dites, la chimiothérapie ? La chimiothérapie a exagéré, mais lorsqu'on a affaire à un médecin compétent qui sait quelle substance est nécessaire pour tel désordre, eh bien il ne faut pas cracher là-dessus. C'est premièrement cela. Vous savez, il y a des gens qui ont des délires, et à tous les niveaux. Alors des fois les délires deviennent vraiment graves, on est obligé de les enfermer. Pourquoi ? Parce qu'ils risquent dans leur délire de devenir dangereux, soit pour eux-mêmes, soit pour les autres. Mais tous les cas dont j'ai eu à m'occuper, parce qu'il s'agissait de délires soi-disant mystiques, alors on me les envoie, eh bien je remarque une chose, c'est que lorsque le patient... D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi c'est le malade qu'on appelle patient, c'est le médecin qui doit avoir la patience. Enfin, lorsque le patient accepte de prendre des médicaments, c'est déjà trois quarts du problème de résoudre. C'est-à-dire qu'il faut rassurer le malade en lui expliquant que c'est une maladie, tout simplement, et que ça se soigne. Et que si le psychisme est atteint, c'est pas que son âme est en danger. Alors, je veux dire, c'est pas que son âme est mauvaise, c'est que son corps fonctionne mal. Et que ça commence par là. Est-ce que c'est clair, ce problème ? Bon, on a perdu la science de la fabrication des enfants, pour employer un mot poli. Okay ? On ne sait pas comment fabriquer les gosses. Alors on fabrique des corps tordus. Et après, l'âme qui vient dedans est atteinte. Mais c'est le corps qu'il faut soigner d'abord. C'est clair, je pense. Et non, c'est pas évident. Alors attendez, dis-moi vraiment ce que tu veux dire. Parce que ce que je dis là, c'est que pour vous aider à réhabiliter la dignité du malade.
Okay. Vous dites que le corps malade rend l'âme malade.
Moi,
je pensais que c'est l'âme qui rendait le corps. Nahon,
ça fait un servicieux. À partir du moment où l'âme...
Mais il n'a pas des différences.
Ah non, parce que... Une minute. À partir du moment où l'âme a rendu le corps malade, alors à son tour, c'est le corps qui rend l'âme malade. Alors bien sûr, il faut soigner l'âme, mais il faut aider en soignant le corps.
D'abord, soigner l'âme, c'est là-bas.
L'objectif, c'est de soigner l'âme, bien sûr. Mais il faut...
En soignant l'âme, il va dire le corps.
C'est exactement le point, une minute, le point de la controverse. Okay. Simplement, réfléchis à ce que je te dis, l'autre aspect des choses. Okay. C'est que, bien sûr, à partir du moment où tu peux vraiment soigner l'âme, le corps, ça va suivre. Okay. Oui, mais il y a une base de sécurité à prendre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a une base de sécurité à prendre. Okay.
Qu'est-ce que vous pensez des médecines comme l'acupuncture qui traitent à la fois...
Je ne sais pas si vraiment l'acupuncture, moi je me fais soigner que comme ça, alors tu as ma réponse. Mais je ne sais pas si ça traite vraiment le côté psychique, forcément. Mais en tout cas, effectivement, il y a là une méthode beaucoup plus, je ne sais pas comment dire, naturelle, ce n'est pas le mot, mais enfin beaucoup plus efficace, peut-être que l'allopathie, là, comme vous appelez ça. Okay, il n'y a pas de. Mais aussi, là aussi, il faut tomber sur un médecin compétent. Très souvent, vous pouvez avoir des médecins qui font des exercices sur le malade, okay, et qui prennent leur malade comme des cobayes. Pourquoi ? Parce qu'ils n'en savent pas plus que... Ils ne savent pas comment s'en sortir, alors ils tâtonnent. Okay. Il faut effectivement avoir la chance de tomber sur un médecin compétent. Et quel est l'objectif de l'acupuncture ? C'est très exactement notre problème, de remettre en ordre l'équilibre énergétique du corps. Lorsqu'il y a eu un désordre, et ce désordre vient... La plupart du temps, comment dire, d'un excédent de telle substance dans le sang et inversement, alors l'équilibre énergétique est atteint, il faut remettre cet équilibre en ordre. Okay.
Est-ce qu'on peut pas penser alors qu'entre quelqu'un qui est bon ou quelqu'un qui est mauvais, enfin, un rachat et quelqu'un qui est bon, la différence c'est qu'il y en a un qui est peut-être malade physiquement et l'autre qui est pas malade physiquement.
C'est un des facteurs. C'est un des facteurs.
Peut-être le facteur de base
C'est un des facteurs, bien sûr. Et c'est pas qu'il est malade corporellement, c'est que son corps n'est pas comme il devrait être. Bon, un des objectifs principaux de la cache-route, c'est ça. Ça dépend de la nourriture. Okay. Mais même sans aller au niveau des maladies à proprement parler, la manière dont on se nourrit commande la vie spirituelle. Parce qu'en fait, je pense que vous êtes clair, on devient ce qu'on mange. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire manger ? Ça veut dire faire entrer en moi. Pour nourrir mon âme, parce que finalement, c'est l'âme qui se nourrit à travers le corps. Ochel nefesh. Le ochel, c'est ochel nefesh. Quand vous arriverez à un certain âge, vous saurez que le corps peut se nourrir de très peu. Vraiment, rien du tout au niveau substance. Mais il faut nourrir l'âme. D'ailleurs, la raison pour laquelle le Shabbat, on est obligé de manger plus, parce qu'on a une âme supplémentaire. Vous n'avez pas remarqué ça. Au Shabbat, on a plus faim que les autres jours. Non, c'est pas des blagues. Et tous les grands maîtres ont expliqué ça dans leur cours. Le goût de la nourriture de Shabbat est très important. C'est pourquoi, encore un autre problème, traditionnellement, on ne change pas de menu. C'est celui auquel on était habitué du du Shabbat chez maman, on dit, qu'il doit continuer parce qu'aucun goût ne peut remplacer. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? Bon, c'est consigne aux belles filles. Apprenez la cuisine des belles-mères. Et alors, là, et réciproquement. Oui, non, excusez-moi. Ça paraît étrange, c'est que très souvent le doute ou des conduites psychiques de ce genre par rapport à l'évidence de vérité, la bonne foi, de la santé, de la conscience morale procèdent d'une certaine manière d'être physique. Okay. Il y a des tempéraments comme ça. Alors, puisque vous en avez parlé, je vais un peu ouvrir une parenthèse, je sais pas. C'est que, essayons de mettre par postulat un certain nombre de choses, j'ai pas le temps de vous les expliquer, que vraiment la destinée de chaque individu a un sens, que c'est sérieux. Ce qui ressort de l'enseignement de la Torah, c'est que c'est une destinée dans laquelle nous sommes, en particulier, c'est un des facteurs, mais éprouvés quant à la qualité du mérite d'être de la Neshama, de l'âme. Okay. Et ça veut dire que si notre destinée a un sens, et qu'elle a un sens du point de vue de l'histoire de notre Neshama, de l'histoire de sa destinée, alors il est bien évident que apparaît cette idée que, d'une certaine manière, la vie terrestre est une sorte d'épreuve. Ne tombez pas tout de suite dans le sens romantique de épreuve, vallée de larmes et de douleurs, on est né pour les épreuves. C'est pas dans ce sens-là. Épreuve, c'est test. Mise à l'épreuve dans le sens d'un test. Okay. Au fond, pour aller un peu rapidement dans ce problème, une des manières de voir qu'enseigne la Kabbalah, qui est très importante, au fond, que le monde dans lequel nous venons, c'est une sorte de machine dans laquelle nous apprenons un certain nombre de vertus, à travers laquelle nous apprenons un certain nombre de vertus. Enfin, enlever le mot de machine, ce que je voulais dire, c'est, en particulier pour notre problème, la vertu fondamentale que nous devons acquérir, et c'est pourquoi nous sommes en épreuve sur ce problème-là fondamentalement, c'est apprendre à aimer. C'est-à-dire, d'une certaine manière, tout est fabriqué dans le monde pour nous mettre dans des situations où nous devons réagir à cette question qui est l'essentiel de la Torah, est-ce que tu es capable d'aimer ton prochain ou pas ? Et que le monde est une machine à nous apprendre à aimer. Plus vite on apprend à aimer, plus la Neshama atteint le bonheur d'être, etc. Et tant que c'est difficile, alors il y a les épreuves, il y a les issourines, la vie se charge de nous corriger jusqu'à ce qu'on y arrive. Vous voyez à peu près le problème. Est-ce que c'est clair ? Et c'est pourquoi l'obsession de la conscience humaine, c'est l'amour. C'est pas pour rien. L'amour ou la haine, d'ailleurs, c'est un étant l'envers de l'autre. Et bon, ce que je vous dis là est très, très ramassé, mais c'est très, très important. Et alors, pour bien comprendre maintenant notre problème, c'est-à-dire que chaque Neshama, dans l'état où elle est, okay, a à progresser. Et alors, à chaque naissance, une Neshama vient dans un corps. Okay. Mais nous savons par tradition, c'est 40 ans d'études, okay, que la Neshama, avant de venir dans une vie terrestre donnée, choisit le type de destin auquel elle sera confrontée. Vous suivez ? Je pense que c'est clair. Bon. Et par conséquent, ce destin étant inscrit dans sa carte d'identité corporelle. Et par conséquent, il est bien évident qu'il y a une sorte de relation, c'est très complexe pour chacun, il y a une constellation différente, mais une sorte de relation entre la nature de cette Neshama et la nature de ce destin qu'elle prend en relais en venant dans tel corps. Et ensuite, pour que l'épreuve soit authentique, juste, on oublie. Okay. Et il y a déjà une première vertu, c'est qui consiste à assumer son corps, à l'accepter vraiment. Alors que c'est celui qu'on avait choisi. Okay. Mais on ne savait pas, on oublie. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai remarqué cela au niveau des crises de l'adolescence, que très souvent, ça porte essentiellement là-dessus. On est mal dans sa peau. Qu'est-ce que ça veut dire, on est mal dans sa peau ? C'est-à-dire qu'on n'accepte pas son corps. Et c'est relié au problème du respect des parents. Alors on en veut aux parents. Okay. Parce qu'effectivement, le corps vient des parents. Vous voyez, toutes les vertus qu'il y a à acquérir d'une certaine manière. Et c'est pour dire ceci. Il y a un goral de chacun qui s'inscrit dans son corps. Et par conséquent, il n'y a pas d'injustice. Si telle âme a hérité d'un corps X suffisamment tordu pour lui faire des tsarotes, okay, Ben, c'est elle qui l'a choisi. Mais pourquoi elle l'a choisi? Parce qu'elle sait très bien que c'est à travers ce genre de problème qu'elle va s'améliorer. Alors, c'est, elle a choisi le problème qui lui correspond. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Donc, vous voyez, les mots sont simples que je vous emploie. Bien sûr, ça renvoie à des réalités spirituelles énormes, je veux dire, beaucoup de choses s'organisent autour de cette notion-là. Et alors, une minute. Alors là, commencent des choses qui nous échappent totalement. Par exemple, le fait qu'il y ait tel défaut dans le corps vient en punition de ce qui a été fait par cette âme dans une vie antérieure. C'est à la fois moyen d'expiation et moyen d'amélioration. Et au fond, toutes ces choses dont je vous parle étaient spontanées, naturelles à la conscience humaine. C'était une chose qui allait de soi. On savait très bien que la vie, c'est ça. On a oublié. Attends, oui, je... On a oublié, on a perdu. Vous comprenez ? Ça va jusque-là ? Okay. Alors, voyez ce qui se passe. Il y a une sorte de déterminisme absolu de ce qui se passe dans le corps. C'est un goral. Okay. Et ceci dit, c'est le point de départ des données à résoudre. Ceci dit, le mérite de la Neshama peut faire qu'elle devienne vraiment maîtresse de son corps, qu'elle domine son corps et l'améliore, et se libère à travers ses conditionnements, et libère ses conditionnements-là. Mais a priori, il n'y a pas d'injustice. C'est le type de problème que cette Neshama a choisi elle-même, parce que c'est ça qu'elle avait à résoudre dans le stade de son évolution. Ça va, oublier les mots, garder l'idée. Okay.
Est-ce qu'on peut parler d'une
Neshama bonne ou mauvaise? On peut parler d'un niveau dans l'échelle des valeurs. Il y a des Neshama plus ou moins hautes, plus ou moins avancées, plus ou moins dans leur tikkun. Okay. Alors quand elle est encore au niveau le plus inférieur, le plus grossier, la tendance au mal est plus grande que la tendance au bien. Au fur et à mesure de l'évolution du tikkun, la tendance au bien domine, et en haut, c'est lumineux, transfiguré. Ça y est, c'est clair.
Okay. Est-ce qu'on ne peut pas le tomber dans la fatalité encore plus que tu m'arrives, je l'ai choisi?
Non, ce que j'ai choisi, c'est une destinée, c'est-à-dire un type d'identité. Mais il n'y a pas de fatalité dans le détail des événements. J'ai choisi un faisceau de tendances. Les tendances, c'est les miennes. Et quand je dis c'est les miennes, vous voyez la différence entre la foi éclairée et puis, si vous voulez, la conception de la fatalité. C'est pas que ça m'a été imposé, c'est moi qui ai choisi. Et puis finalement, moi, mon âme a choisi ce corps-là, okay, parmi d'autres possibilités, mais tout analogue. Alors finalement, on vient dans la famille de son choix, en sachant très bien que c'est un problème énorme qu'on va prendre sur soi. Okay, on va s'insérer dans une histoire. Mais parce que c'est cette histoire qui correspond au stade d'évolution où la Neshama est arrivée. Non, je veux dire, pour retrouver la confiance, enfin l'optimisme, il faut d'abord se rappeler de cela. Chacun a choisi lui-même sa destinée parce qu'elle elle est conforme au stade de son évolution. C'est clair ?
Comment je peux décider le moment auquel on vient ?
Baruch. Mais parce que pour que ce soit tel destin, il faut que ce soit tel moment du zodiaque. Tel moment de la constellation du monde. Puis c'est ce moment-là qui donne le...
Donc on est en rapport avec la constellation ?
Avec une... Barour, bien sûr, mais la grande différence, je vous en ai déjà parlé, je vais en parler 100 fois, je veux que ce soit clair. Je vous en ai déjà parlé une fois en bas, je ne sais pas où, à Shabbat. La différence avec la religion païenne, c'est que la religiosité pour les païens, c'est de s'asservir à cela. Alors que pour la Torah, c'est d'être en tension avec cet horoscope, pour le briser, pour le démolir, pour l'améliorer, pour le... Tout le contraire. Et souvent, on a une arme contre cette détermination, c'est la mitzvot. Et si on ne pratique pas les mitzvot, alors on devient l'être naturel de ce goral-là. Vous avez compris le problème? Ça y est, c'est clair. Oui. Idéalement, oui. Le verset dit qu'Yani Hashem Rofecha. C'est-à-dire, quelqu'un qui se conduit vraiment de façon idéale, selon la Torah, ne connaît pas ce que c'est une maladie. Mais non, nous ne vivons pas dans ce cas, parce que nous vivons dans une étape des générations de l'histoire du monde complètement détraquée. Et il n'en reste pas moins que, vous savez, je ne sais pas comment dire, la Neshama sait tout ce qui la concerne. Mais la conscience de la personne qui a cette neshama l'oublie complètement. Et alors, c'est redonné au fur et à mesure du mérite. Et au fur et à mesure du mérite, du fond de l'inconscient viennent ces choses-là. Et de plus en plus, on sait qui on est. Alors, il y a, je ne sais pas comment dire, on est rassuré. Il n'y a plus cet affolement de la mentalité magique. Et on sait très bien que c'est moi qui suis moi et pas quelqu'un d'autre. C'est là que commence la régularisation de la foi, si vous voulez. Et le problème, c'est de faire le petit coup qu'il faut faire. Par exemple, dans telle vie terrestre, on a à faire le tikkun de telle mitzvah, on est en examen sur telle mitzvah, dès qu'elle est réussie, c'est acquis, intégré, on passe à un niveau supérieur, etc.
Est-ce qu'on peut avoir la connaissance,
l'étape
du tikkun qu'on doit faire?
Oui, normalement on doit l'avoir. Je vous dis, on vit dans un temps, on appelle ça dans la tradition le temps noir, l'âge noir, où on est dans un temps d'oubli, mais le maître compétent connaît le tikkun que son talmid doit faire. Non, on meurt au moment où il faut mourir. Donc, et si, grâce à Dieu, on a accompli le tikkun, c'est bien, on passe à un niveau supérieur. Sinon, on revient pour refaire le même examen.
C'est toujours pour un tikkun?
C'est toujours pour un tikkun. C'est-à-dire, depuis la destruction du temple, toutes les neshamot, sauf de rares exceptions, sont des neshamot en gilgoul. Sont des neshamot qui reviennent achever leur tikkun. Mais on ne remarquait pas que tout ce qui s'est passé à la génération de la sortie d'Égypte, nous le vivons aujourd'hui dans un autre style. Vous avez remarqué ça dans ce que vous apprenez. Nous sommes ces neshamot-là. Sous quel style, sous quel genre, peu importe. Il ne faut pas se casser la tête. Mais il est évident que c'est ça. C'est-à-dire, c'est une sorte de rejeu dans l'histoire de la génération de la sortie de Dieu. Alors, tous les personnages dont la Torah nous parle sont présents, camouflés. Seuls ceux qui savent qui est qui le savent. Et puis, ce n'est pas nécessaire de le savoir, parce que ce qu'il faut, c'est réussir le problème. Et maintenant, nous sommes dans la génération, dans l'occurrence, où on le réussira, qu'on le veuille ou pas. Okay. Vous vous habituez à cette idée-là. Okay. C'est fini, on est arrivé à la fin de la loi des temps. Par conséquent, c'est ce même problème, mais on le réussira qu'on le veuille ou pas. Comme je vous ai dit la dernière fois qu'on a étudié, vous savez, ces trois problèmes-là qui nous sont imposés. Alors ici, on est au fait que la Torah nous est imposée. Vous voyez le problème. Ça y est, c'est clair? Bon. Je ne suis pas rentré dans le contenu de ce problème, on verra plus tard au troisième trimestre. Ça veut dire que la neshama doit acquérir le mérite d'être par elle-même. Elle est créée, donnée à elle-même, cadeau. Okay. Toute la vie dans le monde, c'est la mise à l'épreuve de mériter par soi-même ce que Dieu nous a donné en nous créant. C'est ça qu'on appelle le tikkun. Okay. Et alors, si nous étions normaux, en une vie, ça suffit, le temps de 70 ans de vie pour acquérir le mérite d'être à tous les niveaux de toutes les vertus. Comme on n'est pas normaux, la difficulté est divisée à l'échelle parfois infinitésimale. Okay. Et puis, à chaque vie, on a un tikkun à faire, mais on ne sait pas lequel. C'est pourquoi il faut être scrupuleux sur tous les... Vous n'avez pas remarqué que pour chaque homme, telle vertu est très facile, telle autre est très difficile. Vous remarquez ça ? Et ce n'est pas la même. Okay. Et on n'est pas au même stade du tikkun. C'est compris ce que je dis là ? Okay. Oui, mais on a oublié, c'est ce que je dis.
Et notamment, parce que notre neshama, depuis la partie de la Torah, n'a pas réussi à accomplir son tikkun.
Exactement. Sinon, nous ne serions pas sur Terre. Alors, il y a des neshamot qui ont complètement accompli leur tikkun, mais qui viennent aider les autres. Alors, non, mais c'est vrai, et ils se déguisent en juifs alors qu'ils sont déjà à un niveau. N'est pas remarqué. C'est pas nécessaire qu'ils le sachent. Vous ne vous posez pas ces questions-là. C'est pas nécessaire. Quoi le ? Ça veut dire c'est moi qui suis moi et personne d'autre.
Qu'est-ce que c'est que ce moi ?
La manière d'être homme que je suis, elle est géniale pour elle-même, irremplaçable par un autre, et c'est le cas de chacun. Ken. Chacun est un génie pour lui-même. C'est son moi, son ani. Ken. Et alors, chacun a premièrement ce problème, à s'accepter soi-même. Okay. Alors, je vous ai dit tout ça pour vous rappeler cela. Okay. Au fond, nous avons choisi notre destinée terrestre, mais on l'a oublié. Et alors, il nous semble souvent, longtemps, moi j'ai tellement dépassé ces stades-là théoriquement, si vous voulez, que j'arrive plus à percevoir la difficulté, mais enfin, j'entends bien qu'elle existe. D'abord, la première difficulté, c'est de s'accepter soi-même, être bien dans sa peau, comme on dit. Oui ?
Comment ça peut exister le fait de s'accepter soi-même si on se reconnaît
ça. Et ben c'est ça. C'est ça le problème que j'ai à résoudre. C'est-à-dire savoir que je commence cette destinée-là avec ces défauts-là, mais c'est moi ça, et qu'il faut que je m'améliore sur tel ou tel point. Ça, c'est ce problème-là. En général, c'est une crise qu'on a à l'adolescence, ça dure quelques mois, okay. Et puis, normalement, oui. Et puis, si ça s'installe, si ça se cristallise, okay, alors il faut un petit coup. C'est anormal que ça dure trop longtemps. Ça fait partie des crises de l'adolescence. Parce qu'on devient adulte, mais on sait qu'on devient adulte pour toute sa vie comme ça, c'est celui-là et pas quelqu'un d'autre. Et on aurait préféré être mieux. Ou être... Alors, il y a un manque d'humilité, il y a une espèce d'orgueil épouvantable, jusqu'à ce qu'on rencontre cette phrase simple, c'est moi qui suis moi, et je commence. Et bien sûr, l'objectif, c'est pas de s'asservir à cela, mais de le dépasser, de l'améliorer. Vous avez compris le problème ?
Il y avait
600 000 âmes
au moment de la Torah.
Il y avait ? Oui, oui. Il y a toujours 600 000 âmes distribuées dans le nombre de juifs qu'il y a. Et ne croyez pas que ne croyez pas que chacun a une âme tout entière. Il y a quelqu'un d'autre qui se balade dans le monde qui a une partie de mon âme. Et quand je le rencontre, je dis « Ah, tu en es toi aussi ?» Et pour une Neshama, il peut y avoir des milliers d'individus qui se la partagent. Et en fin de compte, la Neshama d'Israël, c'est tous les juifs à la fois. Mais pour l'humanité, c'est la même chose. C'est une seule Neshama tout entière, celle de Adam Harishon. Et elle revient en jeu, à travers toutes les existences. Par exemple. Enfin, c'est stratage, mais de loin. Hein. Bon, vous voyez, rappelez-vous, quand vous parlez... Si vous pensez à ces choses-là, que je vous ai parlé de ça avec le sourire décontracté. Il ne faut pas s'affoler. Et après que j'avais appris ça, j'ai encore eu des enfants. N'ayez pas peur. Okay. Ça veut dire que tout ça, c'est normal. Il ne faut pas s'affoler et croire que c'est des choses affolantes. Okay. C'est tout à fait normal. Seulement, nous vivons dans un temps de civilisation où nous sommes complètement artificialisés par rapport aux vrais problèmes traditionnels. À essayer, c'est clair. Vous comprenez pourquoi il y a inégalité spirituelle des hommes, que la notion d'égalité spirituelle est une fausse notion. Chacun est à un stade X de son évolution spirituelle et personne n'est jamais au même niveau. Qu'est-ce qu'on appelle un haver? C'est deux personnes qui sont à peu près au même niveau. Alors ils sont haverim. Ils peuvent s'aider. Vous avez compris ce que je veux dire? Ou par exemple, et tout le problème de l'amour entre l'homme et la femme la femme et l'homme, ça se rattache à cette question. Okay. Je vais essayer de vous l'expliquer sous une forme un peu poétique, si vous voulez. Et, au fond, dans le monde où je vis, il manque quelqu'un. Qui? Il manque évidemment quelqu'un dans le monde où je vis. Qui? Moi. Il y a tout le monde dans mon monde, sauf moi. Et c'est vrai pour chacun. Vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, je suis le seul être au monde qui pourra jamais être élève de Mayanot. Et je sais que ça me manque. Et oui, chaque fois qu'on me parle des cours de Manitou, je ne sais pas ce que c'est. Et ça peut vous paraître bizarre, mais je suis la seule personne à ne pas savoir de quoi il s'agit. Ça veut dire, dans mon monde à moi, il manque quelqu'un, c'est moi. Bon, alors, et c'est clair ce que je dis. Et alors, pour chacun, c'est le même problème. On est à la recherche de ce moi qui manque dans mon monde. Et quand on le rencontre, alors c'est ça la femme pour son mari et le mari pour sa femme. Je me suis rencontré. Alors c'est ça, c'est là que le bonheur commence. Pourquoi? Parce que le monde n'est plus dépeuplé. Vous vous rappelez Lamartine? Un seul être nous manque et tout est dépeuplé. Vous rajoutez un commentaire. Et qui c'est cet être? C'est moi. Et vous avez compris? Parce que quand un homme dit à une femme ou réciproquement qu'il aime, qu'est-ce qu'il veut dire? Il lui dit, tu es moi. Si on n'arrive pas à ce niveau, c'est pas de l'amour, c'est tout à fait autre chose. Hein? C'est des jouissances, X ou Y. Mais ce n'est que quand on se reconnaît que c'est toi, moi, et que c'est moi, toi, que l'amour commence.
C'est l'égoïsme.
Hein? Oui, et je vous ai dit, nous on a deux. D'accord. Ah, l'égoïsme, toi c'est moi et moi c'est toi. Non.
Non, mais je m'aime moi avec toi.
C'est pas moi que je m'aime. C'est pas ça, c'est beaucoup plus profond que ça. Parce que tant que ça n'arrive pas là, l'autre n'est pas sûr de la manière dont tu l'aimes. si ma destinée n'est pas en jeu dans l'amour que j'ai pour ma femme, alors elle ne peut pas être sûre que je l'aime. Et réciproquement. Et là, je ne sais pas comment dire, je vous ai dit, les juifs ont deux ennemis, l'égoïme et l'égoïsme, okay. Dedans et dehors. Il faut faire attention à l'ego. L'ego, c'est l'obstacle. Mais c'est ça, j'ai lu chez les poètes persans, chez les mystiques persans, le plus beau poème qui a jamais pu être écrit dans l'histoire littéraire libanite. Okay. C'est un seul mot, tout un poème dans une page, où un homme dit à une femme, mon cœur, tu es mon cœur. C'est ça l'amour, il n'y en a pas d'autre. Vous voyez, on peut dire un autre mot, tu es mon âme, tu es ma vie, mais c'est ça, tant qu'on ne s'est pas rencontré à ce niveau-là, c'est qu'on parle d'autre chose. Bon, ça y est, c'est clair. Donc, alors on referme la parenthèse. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut se rassurer, c'est bien moi qui suis moi, pour chacun, et que ça commence à se relais que l'on prend de sa propre histoire depuis le premier homme jusqu'à la fin. Nous avons tous existé d'une certaine manière ou d'une autre dans l'âme du premier homme. Et c'est cette Nechama-là qui est en cours d'histoire jusqu'au moment où elle achève son tikkun. Et alors, tout...